Bonjour à tous. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous êtes prêts à louer notre Dieu ce matin? À élever vos voix, à lui rendre l'honneur et la gloire qui lui sont dus? Est-ce qu'on peut commencer en acclamant notre Dieu ce matin? Lui donner une ovation qu'il mérite ce matin? On va parler à notre âme, on va lui dire « Lève-toi mon âme et souviens-toi de ce qu'il a fait dans nos vies. »
Lève-toi mon âme et souviens-toi
ensemble.
Tout mon péché, il a hanté.
Et chantons.
Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort mais je suis passé de l'ombre à la lumière.
On y va.
Je veux me vanter que de la croix,
mon sauveur,
s'est offert.
Et déclare-le en lui.
En lui mes craintes n'ont aucune emprise.
Et déclarons.
Ô mort, où est ta victoire? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort mais je suis passé.
Allez, on va élever nos voix ce matin. Tout en moi veut s'adorer. Est-ce que vous êtes prêts à chanter? Allez, avec nos cœurs, avec nos voix.
Tout en moi veut t'adorer.
Allez.
Chantons. Tout en moi veut t'adorer.
Oh, tu es digne, oh Dieu.
Tout en moi veut t'adorer.
Va un peu plus fort.
Tout en moi veut t'adorer.
Chantons.
Tout en moi veut t'adorer. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort mais je suis passé de l'ombre à la lumière.
Est-ce qu'il y a de la joie dans ce Dieu? Chantons-le, tout en moi veut t'adorer.
Tout en moi veut t'adorer. Tout en moi veut t'adorer.
Allez, encore un peu plus fort.
Tout
notre Dieu.
Tout en moi veut t'adorer.
Tout en moi.
Tout en moi veut t'adorer.
Allez, acclamons-le ce matin. Merci notre Dieu, sois élevé pour l'œuvre que tu as fait dans nos vies. Tu es digne de l'honneur, digne de la louange de ton peuple ce matin. Merci pour qui tu es et merci pour ce que tu fais. Toujours agissant, toujours présent dans nos vies. On te loue, on t'aime Jésus. Amen. Amen. C'est vraiment une joie pour moi d'être avec vous ce matin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Julien Adam et je viens du Québec et je connais bien Anne Clémence, on a été ensemble pendant plusieurs années. Et vraiment c'est une joie de pouvoir vivre ce moment, de voir que l'Église est un seul corps. D'un océan à l'autre, d'un bout à l'autre de la terre, l'Église est un seul corps. Et lorsqu'on est unis ensemble, il y a juste une raison d'être ensemble, c'est juste louer Jésus. Et rendre la gloire et l'honneur Et ce matin, j'aimerais vous apprendre un nouveau chant. C'est un chant qui est inspiré de ce passage qu'on trouve dans les Actes des Apôtres où Paul et Silas sont dans la prison. Ils sont dans un moment de ténèbres et ils se mettent à chanter. Et qui est-ce qui croit ici que lorsque tu chantes qui Dieu est pour toi, lorsque tu déclares sa puissance, sa fidélité dans ta vie, il y a des murs qui tombent. Parfois, c'est les murs physiques dans nos vies, mais parfois, c'est aussi simplement des murs spirituels. Les murs, des fois, ne tombent pas ce qu'on aimerait, mais il y a des murs spirituels qui tombent. Notre foi est fortifiée, notre foi est renouvelée. Et alors, on va apprendre ce refrain ensemble. On va apprendre ce refrain de ce chant qui s'appelle « Ce chant portera ma vie ». Ça va comme ça.
Dieu éternel, tu ne faillis pas. Tu te révèles quand mon chant s'élève vers toi. Et je continuerai de te glorifier. Et dans ta présence, les forces reviennent à ma foi. Tu ne faillis pas.
On l'essaye ensemble, Dieu éternel.
Dieu éternel, tu ne faillis pas. Et tu te révèles quand mon chant s'élève vers toi. Et je continuerai de te glorifier. Dans ta présence, les forces reviennent à ma foi. Tu ne faillis pas.
Allez, on y va.
Quand je ne sens que le poids des chaînes, quand mes yeux ne percent plus la nuit, un chant s'élèvera de mes peines et portera ma vie.
Et jusqu'à la fin tu seras fidèle.
Jusqu'à la fin tu seras fidèle.
C'est mon assurance.
Oh, c'est mon assurance, c'est mon cri.
Et mon chant.
Mon chant s'élèvera vers le ciel et portera ma vie. Ce chant portera ma vie.
Allez, déclarons ensemble.
Ô Dieu éternel, tu ne faillis pas. Tu te révèles quand mon chant s'élève vers toi. Et je continuerai de te glorifier. Et dans ta présence, les forces reviennent à ma foi. Tu ne failles pas.
Hey. Et puis je te louerai tout au long du jour.
Je te louerai tout au long du jour.
Je te louerai.
Je te louerai au cœur de la nuit.
Mon chant
s'élèvera pour toujours. Car il fait fuir l'ennemi.
Et si tu le crois,
j'emporterai ma vie.
Allez, déclare. Dieu éternel, tu ne failles pas.
Dieu éternel, tu ne failles pas. Tu te révèles quand mon chant s'élève vers toi. Et je continuerai de te glorifier. Dans ta présence, les forces reviennent à ma foi. Ne faillis pas,
mon Dieu, toujours présent et fidèle, mon assurance.
Je n'attendrai pas la fin du combat pour acclamer ton nom.
Je n'attendrai pas que tombent les murs pour élever ton nom. Du bord du rivage, comme au creux des vagues, je bénirai ton nom. Car tu es fidèle, tu es fidèle. Ensemble.
Je n'attendrai pas la fin du combat pour acclamer ton nom. Je n'attendrai pas que tombent les murs pour élever ton nom. Du bord du rivage, comme au creux des vagues, je bénirai ton nom. Car tu es fidèle,
chante au Dieu,
au Dieu éternel. Tu ne faillis pas. Tu te révèles quand mon chant s'élève vers toi. Et je continuerai de te glorifier. Et dans ta présence, mes forces reviennent à ma foi.
Dans ta présence, oh,
mes forces reviennent à ma foi.
Je n'attendrai pas.
Je n'attendrai pas la fin du combat pour acclamer ton nom. Je n'attendrai pas que tombent les murs pour élever ton nom. Du bord du rivage, comme au creux des vagues, je bénirai ton nom. Tu es fidèle, tu es fidèle.
Oh Dieu, tu es fidèle. Jésus, toujours digne de mes louanges. Oh, élevons notre propre chant ce matin vers notre Dieu, quelles que soient les circonstances. N'attends pas la fin du combat pour élever son nom. Parce que si les circonstances changent, lui, il reste le même. Dieu tout-puissant, Dieu agissant, Dieu fidèle.
Oh, n'attendre pas, tu restes digne, Dieu puissant, Dieu majestueux. Nom est sans pareil, Dieu. Et je n'attendrai pas la fin du combat pour acclamer ton nom.
Sens ton chant ce matin.
Je n'attendrai pas que tombent les murs pour élever ton nom. Du bord du rivage, comme au creux des vagues, je bénirai ton nom. Tu es fidèle, tu es fidèle. Le peuple est rassemblé, t'adorer, magnifier ton nom. Cette église dans ce monde, dans cette ville, est digne de nos chants. Jamais, toi la gloire, Dieu.
Allez, lève ta voix et lève ton chant.
Et je continuerai, tu fais ton œuvre. Par ton esprit, ta présence, redonne force, redonne foi, redonne vie. Oh notre Dieu, oh notre Dieu, nul autre nom que toi, Dieu.
Oh, chantez ce chant par ce qu'il vit,
par ce qu'il vit. Où je n'ai rien à. Toi, Jésus, sont assis. Entre ces et oh, il tient ma vie. Je le sais, pour ce temps et l'éternité.
Je sais qu'il vit. Encore une fois, faisons monter ce chant par ce qu'il vit.
Par ce qu'il vit.
Donc je n'ai rien à craindre.
Je n'ai rien à craindre.
Mes lendemains,
mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il
tient ma vie
pour ce temps
est. Je sais, mon sauveur vit,
pour ce temps est.
La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, des âmes en la mort et le.
Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité.
Allez, déclarons.
Hey! Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu tu triomphes à tout jamais.
À
toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom.
Oh, ce nom est victorieux.
Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de
Et tu es sans rival.
Oh, tu es sans rival, tu es sans.
Juste pour voir.
Oh, ce nom est si merveilleux. Ce nom est si merveilleux. Ce nom est si merveilleux. Ce nom est si
Qui croit que Dieu fait encore des merveilles aujourd'hui? Qui peut proclamer dans ce lieu que Jésus est le Dieu victorieux? Nous croyons dans un Dieu victorieux qui est sans rival, sans égal. Nous avons des oppositions, nous touchons nos limites, mais le Dieu que tu confesses ce matin, lui ne connaît aucune limite. Il est le roi des rois, il est le seigneur des seigneurs. Il dit un mot et la chose s'accomplit. Il ordonne et la chose existe. Vous savez ce que Dieu cherche ce matin? Des adorateurs, en esprit et en vérité. Et si ce matin on pouvait dans notre esprit peut-être visualiser, regarder à quelque chose qui est vraiment comme une montagne, comme une muraille pour nous ce matin. Pour certains, c'est une situation relationnelle qui est très, très compliquée. Et pour toi, c'est une muraille, c'est une montagne infranchissable. Tu dis, mais jamais je vais pouvoir me réconcilier avec ce membre de ma famille. On a tout essayé. Pour d'autres, c'est peut-être le champ de bataille des pensées. Peut-être des maladies qui sont là. La crainte, le doute, la peur. Nous confrontons de l'opposition. Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais Jésus dit aussi quelque chose. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Prenons juste un temps, peut-être pour avoir en ligne de mire un ennemi, un obstacle, une souffrance. Et ce matin, alors qu'on peut reprendre juste cette prière en chant, tu es sans rival, tu es sans égal. Faire cette prière sur notre vie, sur notre situation, faire cette prière à Dieu. Seigneur, tu vois tous les sujets de prière qui sont en train de monter devant toi maintenant. Des situations avec des personnes difficiles, des conflits. Tu vois aussi peut-être des situations de vie, des épreuves de vie. On ne sait pas comment on va pouvoir peut-être boucler la semaine qui arrive. On a reçu une lettre, une mauvaise nouvelle. On a un défi à relever. Et c'est la semaine où tout va changer. C'est la semaine où il faut prendre de grandes décisions d'avenir. Seigneur, tu vois tous ces sujets, toutes ces requêtes qui sont en train de monter, qui sont dans le cœur de mes frères, de mes sœurs, de mes amis, qui sont là, des amis qui sont en ligne. Seigneur, tu entends chacun des cœurs qui crie à toi, qui reconnaît aussi que là, s'il y a cette opposition, cette souffrance, Seigneur, nous te demandons, fais ton œuvre, accomplis un miracle, s'il te plaît. Manifeste-toi d'une manière ou d'une autre, par ta main, par le secours peut-être de quelqu'un auquel on n'aurait pas pensé, peu importe. Mais nous voulons être ce peuple de foi qui confesse et qui confessera encore malgré nos limites, malgré tout ce qu'on peut ne pas saisir de toi, tellement tu es grand, tellement tu es Dieu. Mais nous pouvons faire une chose ce matin, nous pouvons confesser, tu es
sans rival. Tu es sans égard.
Fais cette prière enchantée. À toi.
À toi soit le...
Sur ta situation.
À toi soit.
Sur ce conflit.
Ton nom surpasse tout or.
Tu es, Seigneur, sans égal. Oh, ton nom est victorieux. Prions-le en chantant. Oh, ton nom.
Oh, ce nom est victorieux.
Pour ta famille, confesse-le.
Oh, ce nom est victorieux.
Oh, ce nom est victorieux.
Oh, ce nom est victorieux. Le nom.
Je t'invite à prier pour ta situation en levant les mains maintenant. Seigneur, nous voulons prier pour nos situations de vie. Dans cette journée, nous invoquons le nom du Seigneur. Et la parole de Dieu, la Bible dit, ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés, seront libérés. Et c'est ce que nous croyons ce matin, que tu continues à faire ton œuvre dans nos vies. Oui, nous te portons nos prières, nos supplications. Nous les déposons devant toi ce matin, Seigneur. Et nous te demandons, s'il te plaît, fais ton œuvre. Et nous voulons croire que nous serons un témoignage à l'action de Dieu dans cette situation que nous t'avons apportée, Seigneur. Alors oui, à toi toute la gloire, dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia.
Le psaume 138, au verset 8, nous dit « L'Éternel terminera ce qu'il a commencé pour moi. » L'Éternel n'en a pas fini avec toi. On parlait de situations qui étaient peut-être impossibles à débloquer, mais par ce chant qu'on va chanter, on va déclarer que Dieu règne encore, Dieu est encore au contrôle, et appuie-toi sur sa parole. Dieu n'en a pas fini avec toi. L'Éternel terminera ce qu'il a commencé pour toi.
J'espère encore en l'action de ta grâce. Là où l'échec
prononce ses menaces. J'avance au nom de celui qui a affronté la mort pour qu'en sa grâce aujourd'hui j'espère encore
et déclarons ensemble.
Tu es Dieu de l'impossible, tu règnes encore, tu règnes encore, Jésus, ton nom est infaillible, tu règnes encore, tu règnes encore.
Et avec foi, j'espère encore.
J'espère encore en l'action de ta grâce. Là où le doute de la foi prend la place,
mais j'avance au nom de celui.
J'avance au nom de celui dont on a brisé le corps, et à travers l'ombre et la nuit, j'espère encore, tu es le Dieu. Ce chant retentit pour ta gloire. Ton esprit vient me rappeler ta victoire. Reconnaissant ta majesté, je déclare, tu règnes encore. Et déclarons, tu règnes encore. Alors que ce chant retentit,
oh, son esprit vient faire son âme.
Ton esprit vient me rappeler ta victoire. Reconnaissant ta majesté, je déclare, tu règnes encore, tu règnes encore. Tu règnes encore, Jésus, ton nom est infaillible. Tu règnes encore.
Allez, encore une fois, tu es le Dieu de l'impossible.
Tu es le Dieu de l'impossible. Tu règnes encore.
Juste nos voix qui déclarent avec assurance, avec conviction, alors que son esprit vient restaurer, vient fortifier notre foi.
Tu es le Dieu de l'impossible, tu règnes encore.
Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu ce matin? Notre Dieu qui est tout puissant, souverain sur toute situation.
Voilà, on va continuer à être dans la louange, dans l'adoration, en écoutant une pensée. Et je vais inviter à l'église à rester peut-être juste debout pour ce temps, parce qu'on reprendra, je pense, encore ce chant de déclaration, ce refrain de déclaration, après ce qu'on va entendre ce matin, peut-être pour quelqu'un qui aura besoin que l'église se lève pour prier. Et voilà, on va écouter cette parole maintenant.
Ce matin, dans ton cœur, tu te souviens du passé. Tu te souviens de tes engagements. Tu te souviens du feu qui brûlait en toi. Du feu qui t'a poussé en avant, qui t'a poussé à agir, qui t'a poussé à aller vers les autres pour les aider à s'approcher de Jésus. Et le tourbillon du quotidien, de ta vie, de tous les jours, a eu raison de ce feu-là. Et tu te poses la question, où en suis-je aujourd'hui? Où en suis-je aujourd'hui avec ce zèle? Il est passé où? C'est vrai, il y a encore, le feu n'est pas éteint, mais c'est comme un feu d'entretien qui garde juste un peu chaud la maison. Et tu attends plus de la vie. Tu attends plus du service pour Dieu. Tu attends plus de ton engagement et tu réalises que le tourbillon de la vie a eu raison de cette énergie. Et tu te demandes comment je peux retrouver. Le Seigneur te dit ce matin, il ne s'agit pas de retrouver. Ce temps de silence, de calme intérieur a servi à te construire, à enlever des illusions que tu avais sur toi-même, que tu avais sur la vie, sur même sur Dieu. Mais cela a servi à te construire. Et aujourd'hui, tu es là et tu es un nouvel homme, un nouveau homme. Tu n'es plus le même quand tu étais à 10-15 ans. Tu es un nouveau homme. Tu as gagné en maturité. Et le Seigneur, il te dit ce matin, il est temps maintenant que tu te lèves de nouveau. Que tu saisis de nouveau la main de Dieu, que tu bois de nouveau à la source, que tu fasses l'effort pour boire de nouveau quotidiennement à la source, qui est la parole de Dieu, qui est la prière, et que tu te tournes vers le Seigneur. Et alors tu verras, même dans ton foyer, ce feu revient, ce feu que vous avez laissé éteindre, parce que il y avait votre vie à vous. Le Seigneur te dit, ressaisis-toi. Et alors tu verras tout ton foyer s'embraser de nouveau et vous serez comme des flambeaux dans la main de Dieu pour montrer la direction à une multitude. Ressaisis-toi, mon fils. Ressaisis-toi. Lève-toi. Approche-toi de ton Dieu. Prends l'habitude de mettre à part du temps pour lui. Pas juste comme ça, à côté de tes multiples activités. Approche-toi de Dieu, dans le calme et la confiance. Et tu verras, ce feu d'entretien qui est là deviendra un brasier qui embrasera ton foyer, qui embrasera ta famille, qui embrasera ton église et qui embrasera le monde vers lequel Dieu va t'envoyer. Aie confiance. Tu n'as pas perdu ton temps. C'est juste un autre temps. Et maintenant, il y a un temps nouveau devant toi. Alors lève-toi. Amen.
Voulons prendre le temps de prier pour quelqu'un qui sent qu'il y a eu ce temps de découragement, où on a levé le pied, ce qu'on appelle dans notre milieu parfois le refroidissement dans la foi. Et simplement, priez pour vous, l'Église va prier pour vous, on va le faire là maintenant, et puis reprendre ce refrain comme une déclaration sur votre vie, vous vous reconnaîtrez. On veut pas mettre personne mal à l'aise ou quoi, chacun sait où il en est. Mais prenez cette prière, si vous êtes vraiment interpellé par cette parole, prenez cette prière pour vous et saisissez-vous pour dire, aujourd'hui c'est un temps de renouvellement pour ma vie. un temps où je me lève à nouveau. Seigneur, on te prie pour que cette parole qui a été partagée par Klaus maintenant et qui vient interpeller différentes personnes, que ce soit en ligne ou ici, te prions que ce jour soit marqué comme un nouveau départ quelque part. On te prie vraiment que toi, le Dieu de l'impossible, toi, le Dieu qui nous voit dans nos situations où parfois il n'y a plus qu'un petit lumignon, une petite flamme là qui est là. Et il y a un moment où tu souffles par la puissance de ton Saint-Esprit, tu nous relèves, tu nous emmènes à l'engagement, à reprendre les bonnes armes pour marcher avec toi. Alors nous te prions pour toutes les personnes qui sont en train de se reconnaître au travers de ce don. Et nous te prions que tu puisses, par cette célébration, les relever, plus que les relever, les missionner à nouveau, pour qu'ils puissent vivre dans la présence de Dieu, écouter le cœur du Père et partager le cœur du Père céleste. Oui, nous prions pour eux dans le nom de Jésus maintenant. Et si l'Église est d'accord avec cette prière, vous pouvez dire un grand Amen. On va maintenant chanter et le louer avec ça.
Tu es le Dieu de
une acclamation de louange et de foi pour ce que Dieu a fait aujourd'hui, ce que Dieu a fait ce matin dans nos cœurs, dans nos vies.
Acclamez Dieu, gens du monde entier. Eh bien, c'est ce qu'on fait. On est des gens du monde entier et ce matin, on acclame Dieu. Et est-ce qu'on peut encore lui donner une main d'acclamation vraiment pour lui dire, mais oui, c'est toi le Dieu que j'aime, que j'adore, que je célèbre. Vous pouvez prendre place. Bienvenue dans notre salon ici à l'Épi. On est heureux de vous avoir avec nous ce matin, de prendre ce temps de célébration à Dieu. Est-ce que, je ne sais pas si vous connaissez la personne qui est à votre droite ou à votre gauche, mais est-ce que c'est possible juste de se retourner vers une personne que vous n'avez pas saluée, que vous ne connaissez pas, dire bienvenue, bonjour. Voilà, juste question de se dire bonjour. On est reconnaissant, il y a certainement des visiteurs, des personnes qui sont en visite sur Strasbourg parce qu'ils étaient marcheurs hier et marcheurs pour la marche pour Jésus. Et soyez les bienvenus. Est-ce qu'il y a quelques marcheurs qui étaient là, levez la main, qui sont d'envie, voilà, il y a quelques marcheurs qui étaient là, incroyable. Et puis ceux qui nous visitent, ceux qui étaient marcheurs et qui nous visitent, qui viennent pas forcément de Strasbourg, est-ce qu'il y en a? Vous pouvez juste lever la main s'il y en a, parce que sinon je vais me faire tirer les oreilles par Michel. Ah voilà, là-bas, est-ce qu'on peut l'accueillir? On peut leur souhaiter la bienvenue? Bienvenue à l'église de l'Épi. On est heureux de vous accueillir ce matin. L'église de l'Épi existe depuis des dizaines d'années maintenant. Ce sont des hommes, des femmes, des jeunes et des moins jeunes qui se rassemblent le week-end, en semaine, par des groupes de vie, des groupes de maison, des groupes par âge, des groupes par centre d'intérêt, par rapport à la langue peut-être. Et si vous êtes sur Strasbourg, que vous êtes à la recherche d'une communauté chrétienne ou grandir dans la foi, vous êtes les bienvenus à l'Épi, n'est-ce pas? On peut leur dire ça? Donc, si jamais, il y a toutes les informations pour vous sur notre vie d'église au quotidien, au point accueil, dans le hall. N'hésitez pas, des personnes vous attendront et répondront à toutes vos questions. Vous cherchez un petit groupe pour pouvoir prier, faire connaître Jésus à un collègue de travail. Il y a des groupes qui existent un petit peu partout sur Strasbourg et on sera heureux de pouvoir prendre un temps avec vous. Si vous désirez aussi un entretien pastoral peut-être pour se poser, pour pouvoir échanger, qu'on prie avec vous, pour être accompagné sur certains domaines, on est aussi là, on est à votre écoute. N'hésitez pas à vous rendre au point accueil aussi. On sera heureux de vous accueillir, de pouvoir prendre ce temps avec vous, se bénir mutuellement et accompagner tout à chacun. Est-ce qu'on est content d'avoir eu Julien Adam avec nous ce matin pour conduire la louange? Est-ce qu'on peut le remercier? Merci beaucoup. On a une grande joie de l'avoir. Certains connaissent pas forcément ton nom, ton prénom, ton visage, mais Julien a participé à la composition de plusieurs chants qui ont béni des gens dans la francophonie. Il tourne aussi, on s'est rencontrés dans Lyon. Je sais pas qu'est-ce que t'es venu te perdre dans Lyon à Joigny. Mais cette soirée-là avec l'église d'Auxerre, on a été bénis par la conduite de la louange. Donc quand Anne-Clémence a dit « Hey, Julien Adam est dans les parages en Alsace, est-ce que ça vous dirait ?» J'ai dit « Mais carrément, c'est trop bon. » Alors, sois béni, il y a Olivier aussi qui est quelque part, qui l'accompagne. Julien est venu avec quelques productions, albums qu'il a composés, qui sont là pour bénir les gens dans la louange. Il y a un stand dans le hall aussi, allez les voir. On sait qu'aujourd'hui, on écoute sur différents types de plateformes de streaming, mais c'est aussi un moyen de soutenir les chrétiens qui vont par leur ministère servir des églises et conduire dans la louange aussi. Donc n'hésitez pas à vous rendre au stand à la fin de cette célébration. Ce sera vraiment une grande joie de pouvoir échanger avec vous et de pouvoir soutenir aussi le ministère de Julien Adam. Voilà, quelques annonces aussi dans notre vie d'église. Comme vous le savez, on vous l'annonce depuis plusieurs temps maintenant, nous allons avoir une célébration, un culte de l'entente. Alors on a eu l'habitude dans les années à ce que nous accueillions ici le culte de l'entente. Maintenant, vu le nombre de personnes et vu nos infrastructures, on a opté pour une autre manière de pouvoir se rassembler dans l'unité. On a appelé ça des cultes de l'entente en multiplex. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs églises qui vont accueillir d'autres églises de leur quartier, de leur zone. Et comme ça, ils vont pouvoir vivre de la koinonia, de la communion ensemble. Le thème de ce culte de l'entente, c'est une église dans la ville. Et on aura comme orateur Erwan Kloarek, qui sera diffusé en live dans différents sites sur Strasbourg. Nous sommes une église accueillante et nous allons accueillir une église de la zone ici, de la Plaine des Bouchers, l'église Miel, ils seront là avec nous. Ils vont nous aider pour l'accueil des enfants. Ils vont être participants pour vivre ce temps de célébration. Alors je compte sur vous, l'EPI, pour pouvoir bien les accueillir aussi pour ce jour de communion, d'unité. On est très heureux de pouvoir les accueillir. Donc rendez-vous le dimanche 2 juin. On prendra la scène ensemble, temps de communion, d'unité. Voilà. Donc vous êtes toutes et tous les bienvenus. Une église dans la ville. Une autre information, celle-là, elle concerne... Excusez-moi, je reviens vite fait dans mes petites notes. J'étais sur le site de Julien Adam, c'est pour ça. Voilà, c'est bon, je suis revenu. Oui, une information ultra importante, merci beaucoup la technique. Depuis une dizaine de jours maintenant, vous êtes au courant que nous vous présentons un pré-projet qui s'appelle « On reste ?» point d'interrogation. Et nous lançons officiellement aujourd'hui la convocation pour les membres administratifs de l'église. Vous avez, nous, comment on fait, vu le nombre qu'on est, on n'envoie pas une communication papier à chaque personne, on affiche. Donc vous avez au fond de cette salle, vous avez la convocation avec l'ordre du jour, vous avez le livret On reste, qui est là aussi pour les personnes qui peut-être n'auraient pas encore, vous étiez voilà en déplacement ou autre, vous n'avez pas encore eu ce livret par mail ou papier, vous pouvez vous munir de ce petit livret, aller rencontrer le conseil d'administration à la fin de cette célébration, poser vos questions, déposer. Si vous avez eu un petit bug technique peut-être parce que votre mail n'est pas arrivé au bon endroit, vous avez Xavier, tu peux lever la main, le secrétaire, est-ce qu'on peut encourager le secrétaire de l'EPI? Il est là, il est prêt. Donc s'il y avait quelque chose, allez le voir aussi. On essaye vraiment d'affiner au maximum comment être en relation avec vous par le mail, les newsletters ou autre. Donc Assemblée Générale Extraordinaire dimanche 9 juin. Si tu ne peux pas être là le dimanche 9 juin, il y a deux choses qu'il faut que tu fasses. Il y a deux procurations. La première, c'est que si tu es pas là, tu donnes ta procuration à quelqu'un. Et deuxièmement, si tu sais que quelqu'un de l'épi sera pas là pour le 9 juin, ah, t'es pas là, qu'est-ce qu'il faut lui demander? Est-ce que tu as ta... Oui, procuration, dites-le bien fort, est-ce que tu as ta... Procuration incroyable. Vous savez, j'essaye de battre le record du monde de la présence à une assemblée générale pour l'église de l'épi. C'est la mission pour laquelle je suis revenu en Alsace, qu'on ait le quorum, d'accord? Mais pourquoi on insiste beaucoup là-dessus? Simplement parce qu'on veut écouter le cœur, un maximum du cœur de l'église. On n'est pas là pour faire un projet dans le coin, on est là pour vivre ce projet ensemble. Et pour que ça puisse être ensemble, on a besoin de ce quorum, on a besoin qu'à cette assemblée générale, il y ait un maximum de personnes qui se prononcent ou qui soient représentées. Donc, si vous ne pouvez pas être là, pensez procuration. Et n'oubliez pas ce que Nathalie vous a dit la semaine dernière. Allez voir 5 membres de l'EPI, dites-leur, hey, est-ce que tu es là pour le projet? On reste, on a besoin de ton avis, on a besoin que tu te positionnes. Ah non, je suis pas là. Et hop, vous lui proposez la procuration. Ok, on est très content parce qu'on voit que il y a du répondant quand même. On vous remercie. Il y a des zooms qui arrivent. Vous savez qu'on veut des espaces de questions-réponses pour pouvoir échanger avec vous parce que le jour d'une assemblée générale, parfois, soit le temps, soit des personnes peuvent ne pas être à l'aise avec des questions publiques ou autres. Donc on a la boîte à questions, on a des zooms et on reprendra les questions qui ont été posées pendant l'assemblée générale pour que l'Église soit entendue et que l'Église puisse s'exprimer. Vous avez vu le livret, vous avez vu plusieurs informations, vous avez peut-être plusieurs questions qui viennent, c'est normal. Venez échanger avec le conseil d'administration, venez échanger avec le conseil d'église, venez échanger avec les personnes qui ont travaillé sur le projet immobilier, assemblée générale. Moi, je suis assez excité, je suis assez content, je me maintiens parce qu'on m'a dit « Mathieu, tu te contiens émotionnellement, d'accord ?» Donc j'ai dit « Oui, t'inquiète pas, je serai là, impartial, j'emmène l'église à ce qu'elle puisse se positionner, qu'elle puisse répondre à cette question. On reste, point d'interrogation. » Il me semble encore que j'ai une annonce concernant Freddy Fried. Les reçus fiscaux, vous savez que nous sommes une église qui peut délivrer des reçus fiscaux. Tous vos dons sont déductibles d'impôts. Pour pouvoir bénéficier de cela, il faut prévenir Freddy, notre trésorier, ou le conseil d'administration bien en amont. Parce que lui doit faire une déclaration avant de délivrer les reçus fiscaux. Donc si vous venez sans avoir précisé à Freddy que vous en aviez besoin, Freddy a déjà fait les déclarations. Donc il peut plus en refaire encore d'autres par-dessus. Donc veuillez nous excuser, on essaye de faire le maximum pour vous répondre. Mais voilà, en tout cas, on essaye de bien expliquer comment ça fonctionne, les process ou autre, de manière à ce que on puisse bien fonctionner ensemble. Donc Freddy se tient dans le hall de nouveau pour toutes les personnes qui ont demandé un reçu fiscal pour l'exercice 2023. Et comme ça, vous pourrez aussi le saluer, l'encourager et dire « Ah Freddy, mais t'es beau gosse aujourd'hui, hein. Merci pour tout ce que tu fais. Merci Freddy pour tout ce que tu fais. » Voilà. Ouais, on peut l'encourager le Freddy, bien sûr. Ah oui, hein. Ah, il souffre un peu avec moi, mais ça va, on s'aime beaucoup. Hein? En tout cas, encore une fois, on est très heureux de vous accueillir ce matin. On va prier pour ce temps de message maintenant. On va demander au Seigneur vraiment que la prédication de l'Évangile et le sujet de ce matin va venir encore une fois nous percuter. Et je le crois vraiment, que Jérôme soit béni, que nous soyons bénis ensemble. Alors permettez-moi juste de prier pour ces moments. La prédication de l'Évangile, c'est pas quelque chose d'habituel. L'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alors on va le prier ensemble. Voilà, Seigneur, merci. Merci pour cette matinée. Merci pour la louange. Merci pour les ados qui sont en train de se rassembler en ce moment. Prie pour qu'ils puissent vivre un rendez-vous divin avec toi. Tous les enfants aussi qui sont dans la maison ce matin. On te prie de les bénir et chaque personne dans ce lieu. On te demande, Seigneur, de bénir Jérôme, de bénir ce temps de prédication de l'Évangile. Que la Bible, elle puisse éveiller nos sens spirituels, que la Bible, elle puisse interpeller notre moralité, notre manière de voir, de concevoir. Que tu puisses, au travers aussi de ce moment, éveiller en nous une soif de t'aimer encore et encore, Jésus. On veut bénir Jérôme et on veut se bénir mutuellement. Merci Seigneur pour cette journée que tu as faite, qu'elle soit pour nous un sujet de grande joie. Amen. Que Dieu vous bénisse.
Merci Mathieu, bonjour à tous. Combien ont passé un bon temps de louange ? Ok, super. Merci hein, Julien pour tout ton travail et puis l'appel que tu as là-dedans. On est vraiment content de te recevoir. On va faire un petit exercice pour un exercice mental, ok? On va tous fermer les yeux. Fermez les yeux. Et imaginez-vous Jésus physiquement. Ok. Pas de barbe, la barbe, cheveux courts, les yeux verts, peu importe. Imaginez-vous Jésus physiquement pendant 7 à 8 secondes, ok? Réfléchis, couleur de peau, type européen ou plutôt oriental. Imaginez-vous. Ok, maintenant on ouvre les yeux. Maintenant discutez avec votre voisin et essayez de comparer un petit peu l'image que vous avez de Jésus. Essayez de comparer. Ok. Comment il est habillé? Est-ce qu'il avait des belles dents? Est-ce que... Est-ce qu'il vous ressemblait, etc., etc. Ok, super. On pourrait en parler pendant des heures. À quoi ressemblait Jésus? Il y a des images qui vont apparaître. Première image. Juste la prochaine slide, il y a des images qui vont apparaître. Ok, super. Ça, c'est des représentations de Jésus qui datent de plusieurs centaines d'années. Il y a des sculptures, il y a des tableaux. Et ça, c'est type européen. Ok, généralement, ça, c'est des tableaux, des sculptures qui sont d'Europe. Mais saviez-vous que les Européens n'étaient pas les seuls à avoir fait des représentations de Jésus? Prochaine image. Voici un Jésus asiatique. En fait, j'ai découvert ça il y a quelques années. Je pensais que Jésus, en fait, il avait la même tête partout, mais en fait, non. Parce que on dessine Jésus en fonction de notre culture aussi. Prochaine image. Une autre représentation de Jésus asiatique, avec vraiment les vêtements typiques. Est-ce que vous pensez que Jésus ressemblait à ça à l'époque? Mais est-ce que vous pensez que Jésus ressemblait à ce que vous avez imaginé en tête aussi? Pas forcément. Prochaine image. Ça, c'est le monde américain, ok? Ça, c'est le Jésus américain avec Hollywood. Voilà, il y a les différents films de Jésus qui sont apparus. Mais mon préféré, moi, c'est le suivant. Je sais pas s'il y en a qui suivent la série. Mon préféré, c'est lui. Ok, est-ce qu'il y en a qui suivent The Chosen? Ok. Moi, j'ai hâte à la saison 4, elle est en train de sortir. Ok, on a tous une image différente de Jésus physiquement. Mais aussi, on a tous une image différente Jésus, Dieu, parce que Jésus est Dieu. On a tous une image différente de Dieu en fonction de ce qu'on croit qu'il a comme caractère. En fonction de ce qu'on croit, de ce que la Bible enseigne, en fonction de plein de choses, en fonction de notre culture. Et juste vous dire, moi, quand j'étais petit, l'image que j'avais de Jésus, l'image que j'avais de Dieu, c'était un mélange entre le Père Noël et le Père Fouettard. Moi, c'était ça dans ma tête. Parce que pour moi, dans ma tête, avant juste que je me convertisse, Jésus, Dieu, c'était celui qui donne des cadeaux quand t'obéis, mais c'est celui qui te punit quand t'es pas sage. Et du coup, j'avais ça en tête, le Père Noël et le Père Fouettard. Et toute l'image qu'on va avoir de Dieu va influencer toute notre vie avec lui. Parce que tu vas obéir, tu vas agir, tu auras les motivations en fonction de l'image que tu as de Dieu. Un enfant, si son papa ou sa maman est violente, alors il va obéir par peur. Et il va obéir d'une certaine manière. Et toute son attitude va être façonnée en fonction de l'image qu'elle aura de ses parents. Et en fait, c'était la même chose avec les pharisiens de l'époque. Dans Luc chapitre 15, on va voir un passage ensemble où les pharisiens ont une mauvaise image de Jésus et du coup ne vont pas comprendre le comportement de Jésus avec les pécheurs. Luc 15, versets 1 à 3. Tous les collecteurs d'impôts et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'écouter. Mais les pharisiens et les spécialistes de la loi murmuraient, disant « Cet homme accueille des pécheurs et mange avec eux ?» Alors, il leur dit. Et Jésus va pendant trois paraboles. C'est le seul moment où on voit trois paraboles pour apporter un seul point. Jésus va apporter trois paraboles pour montrer « Non, non, les gars, vous n'avez pas la bonne image de Dieu. Votre Dieu, dans votre tête, l'image que vous avez de Dieu, ce n'est pas la bonne. » Je vais vous expliquer trois paraboles pour vous montrer quelle est l'attitude de Dieu vis-à-vis du pécheur et vis-à-vis du péché. Et c'est des paraboles qu'on connaît tous. Il y a la parabole de la brebis perdue, la parabole de la femme qui va retrouver sa pièce, et la parabole qui nous intéresse ce matin, c'est la parabole du fils prodigue. Fils prodigue, d'ailleurs, qui a un mauvais titre. Parce que l'emphase des trois paraboles, c'est pas l'objet perdu ou la personne perdue, mais c'est quelle attitude celui qui retrouve la chose perdue a. Quelle attitude Dieu a vis-à-vis de celui qui est perdu. En fait, le vrai titre serait la parabole du père qui accueille, qui retrouve son fils. Ça devrait être ça, le vrai titre de cette parabole. Puis, c'est un peu long. On va lire juste les versets 11 à 24. On va s'arrêter juste avant que le grand frère rentre en jeu, ok? Donc, on lit tout d'un coup et après on va décortiquer ensemble. Luc 15, versets 11 à 24. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit dans un pays éloigné, où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans des champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir et se dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim ?» Je vais retourner chez mon père, je lui dirai, père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se leva
et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut, se jeta à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête. Toute une histoire avec plein de détails. Puis la vérité, c'est qu'on pourrait faire une thématique juste sur cette parabole, tellement il y a d'histoires. Mais on va voir qu'il y a trois thèmes qui reviennent. Il n'y aura pas de points forcément, ça va être structuré un peu bizarrement ce matin, mais il y a trois thèmes qui reviennent. Premièrement, c'est la gravité du péché. Souvent, on l'oublie. Mais la vie du fils prodigue vient mettre en avant à quel point la vie du pécheur et le péché est grave devant Dieu. Deuxièmement, on va voir l'amour et l'accueil du Père. Et troisièmement, on va voir la repentance et aussi la semi-repentance. On va voir ça ensemble. Premièrement, donc la gravité du péché. Une des choses que les pharisiens et les chefs religieux reprochaient à Jésus, c'était d'avoir une doctrine du péché trop light. De dire non, Jésus, ta vision du péché, elle n'est pas bonne. Tu accueilles le pécheur comme s'ils n'avaient rien fait. Tu manges avec des gens de mauvaise vie comme si le péché n'était pas si grave que ça. Et en fait, Jésus, à travers ce premier détail de la vie du fils prodigue, il vient rassurer les pharisiens et leur dire, ok, voici ma vision du péché. Voici ma vision du péché. Puis il commence. Luc 15, 11 à 12. Donc là, on va juste décortiquer. Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Le père leur partagea ses biens. Culturellement, ce que le fils fait, c'est extrêmement scandaleux. En fait, littéralement, il est en train de dire à son père, « Papa, tu meurs pas assez vite. Donne-moi l'héritage que je dois toucher à ta mort. » C'est ça qu'il dit. C'est papa, en fait, tout ce qui m'intéresse, c'est pas être en relation avec toi. Tout ce qui m'intéresse, c'est tout ce que tu peux m'apporter. Et ta vie est un frein à ce que je veux. Alors meurs maintenant. C'est ça qu'il est en train de dire. C'est super scandaleux. Il y a Craig Kinner, un théologien, qui vient justement expliquer un petit peu à quel point c'est scandaleux. Une telle déclaration ne passerait pas bien, même dans l'Occident d'aujourd'hui. Et dans une société, donc en Orient, qui met l'accent sur l'obéissance au père, elle constituait un acte de rébellion grave pour lequel le père aurait pu le battre, ou pire encore, le retrancher de sa famille, ou même qu'il soit condamné à mort par la ville. Et là, directement, on a deux personnages, le fils, le père, avec des caractères bien distincts. Et selon la foule, les théologiens disent ça, les pharisiens, la foule qui écoutait, ont dû attribuer comme étiquette au fils, « Ok, lui, c'est un sale pécheur. Il se rebelle contre son père alors que ça se fait pas, tu dois honorer tes parents. » Et dans la culture de l'époque, il n'y a pas forcément de bien ou mal, mais c'était plus honneur, déshonneur. C'est non, tu dois pas faire honte à la famille. Et le fait de faire ça, c'est une honte totale à la famille. C'est extrêmement grave. Et deuxièmement, il y a le père. Et le fait que le père accepte sa demande, tous les gens en face ont dû se dire, ok, ce père-là, c'est le plus stupide qui existe. T'es pas censé accepter. T'es censé défoncer ton fils. T'es censé lui dire, c'est qui le patron? T'es censé lui dire, non, ça se fait pas. C'est moi qui t'impose ce que tu dois faire. Le plus stupide. Et puis qu'on soit honnête ensemble, mais combien de fois moi j'ai considéré Dieu comme étant le plus stupide quand je voyais pardonner certains péchés? Parce que c'est ce que le Père fait. Le Père, il dit, ok, je veux pas te forcer à t'aimer. Je veux pas te forcer à m'aimer, pardon. Si tu veux partir, pars. Combien de fois j'ai considéré Dieu comme étant le plus stupide en le voyant trop light avec certaines catégories de péchés, et parallèlement, je le remerciais de ne pas être comme ça avec moi. J'ai déjà fait ça, Seigneur, traite-le comme ça, mais ne me traite pas comme je te demande de les traiter. Des fois, c'est inconscient. Mais des fois, c'est à cause de notre catégorie de péché dans notre tête, de dire, ah non, ouais, oui, ok, j'ai des péchés, mais les siens sont beaucoup plus graves quand même. Et des fois, on prend Dieu, on considère Dieu comme étant stupide, parce qu'en fait, Dieu est rempli d'amour et rempli de grâce, et on pense qu'il est trop light pour ça. Et des fois même, c'est l'inverse. Parce que là, le père accepte la demande du fils, accepte que le fils parte. Et des fois, combien de fois, moi, j'en ai voulu à Dieu que des gens quittaient la foi alors que c'est pas de sa faute? C'est les gens qui décident. Et comme Dieu ne te forcera jamais à t'aimer, Dieu te laissera toujours partir si t'as plus envie de l'aimer. Ça va pas dire qu'il va pas essayer de te retenir. Ça va pas dire qu'il aura pas le cœur brisé. Mettez-vous juste à la place du père. Il y a des parents dans la salle, c'est certain. Imaginez-vous votre fils qui vient vous voir et vous dit, en fait, ce qui m'intéresse, c'est pas forcément être en relation avec toi, ce qui m'intéresse, c'est tout l'héritage. Donc, la maison, la voiture, ton PEL, tes comptes en banque, etc. Mais être en relation avec toi, c'est vraiment pas ma priorité. Combien pensent que t'aurais le cœur brisé, là? De dire, ok, moi j'ai tout donné pour mon fils, ma fille, pipi. Tu sais, moi, quand Blanche, quand ma première fille avait 1 an et demi, c'est la première fois que j'ai ressenti qu'elle m'a brisé. Ok, elle avait 1 an et demi. Hein. Elle m'a brisé le cœur sans faire exprès. C'est la première fois. Elle avait 1 an et demi, ok, donc elle était pas encore consciente. Jésus lui a pardonné avant même qu'elle le fasse, c'était sûr. Et c'est la première fois qu'on la faisait garder par des amis. On s'est fait une petite sortie en amoureux avec Anne Clémence. Et on revient le lendemain, puis on était. C'est un peu bizarre quand t'es parent, parce que quand t'es sans tes enfants, t'es content, mais ils te manquent tout le temps. T'as remarqué ça, ils te manquent tout le temps. Puis là, c'était un peu le cas. On arrive, c'était juste une nuit, tu sais, 24 heures sans elle. Et je la prends dans mes bras, je suis super contente. Et là, elle me regarde, elle fait « Maman, maman !» Et là, bon, on a rigolé, on était... Et en fait, j'ai eu le cœur brisé, ça m'a fait trop bizarre. Tu sais, le premier rejet de ma fille. Et je me suis dit « Oh, c'est ça que ça fait !» Se faire rejeter par son enfant. Maintenant, mettez-vous la place du père. Le père qui a tout donné. Le père qui aime son fils plus que tout. Le père qui pourvoit tous ses besoins. Il l'aime, il l'a jamais forcé. Et là, le fils vient le voir. Papa, meurs, s'il te plaît, meurs. Comme on dit au Québec, oh boy. Ça, c'est de la déclaration, là. Ça doit être dur. Ça doit être dur. Mais Dieu n'est pas un Dieu qui force. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on étudie un petit peu le passage, on se rend compte que le fils ne brise pas la loi. Le fils brise sa relation avec son père. Et en fait, Jésus, là, donne la définition du péché du pécheur. La définition du péché, ultimement, c'est pas que de pas respecter la loi, mais c'est d'être séparé de Dieu. Et là, c'est ce qu'il fait. Parce que sa demande, elle était scandaleuse, mais il avait le droit de la faire. C'est juste que ça montrait à quel point il voulait être séparé de son père. Et en fait, le pécheur, ultimement, le plus grand mal qu'il vit, c'est d'être séparé de son père. C'est d'être séparé de Dieu. Et c'est exactement là où Jésus veut mettre le point. Il dit, ok, voici c'est quoi un pécheur? Un pécheur, c'est quelqu'un qui veut être séparé de Dieu. Et qui se sépare de Dieu. À travers le péché, via le péché. Mais c'est pas juste pas respecter la loi ou pas, c'est être séparé de Dieu. On continue dans l'histoire. Luc 15, verset 13 à 16. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné, où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans les champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Là, en fait, c'est la déchéance. Ça montre juste à quel point le fils, il fait tout ce qu'il faut pas faire et il se trouve dans un endroit, en fait, c'était, il n'y a pas plus humiliant pour l'époque. Premièrement, il gaspille tout l'héritage. Là, par contre, il respecte pas la loi. Tu pouvais demander l'héritage à ton père avant qu'il meure, mais par contre, tant que ton père était encore en vie, ça appartenait encore à ton père, donc tu pouvais l'avoir sur toi, mais pas le dépenser. Et lui, il le dépense dans un pays étranger. Dans un pays étranger. Mettez-vous dans le contexte des Juifs et Israélites de l'époque, là. Tu peux pas être en relation avec les étrangers. Et lui, il dépense tout dans un pays étranger. Et une importante famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Combien de fois je me suis retrouvé dans le besoin, une famine spirituelle ou autre, et que j'étais loin de la maison de mon père. Et c'est là où tu te rends compte que, oh, waouh, en fait... Quand tu as une relation avec Dieu, quand tu es proche de Dieu, en fait, tu as des ressources, tu as une force qui est là, qui te permet de traverser chaque tempête. Et là, l'erreur qu'on fait souvent, serait de se dire, ah, mais s'il était resté dans la maison de son père, il n'aurait pas vécu la famine. C'est faux. Il aurait vécu la famine, par contre, il aurait eu toutes les ressources pour le traverser. C'est comme Joseph. Joseph, avec ses frères qui se retrouvent en Égypte, la famine a touché l'Égypte. Par contre, Joseph était au bon endroit. Il y avait de la ressource ici. Il a même pu bénir sa famille qui est venue d'Israël. C'est pas une assurance si t'es dans la maison de ton père, c'est pas une assurance à éviter toute difficulté ou tout danger ou toute famine. C'est pas vrai. Par contre, ton père, si t'es dans la maison de ton père, alors t'auras le courage qu'il faut, t'auras l'encouragement qu'il faut, t'auras la providence qu'il faut, t'auras tout ce dont tu as besoin pour traverser chaque famine. Et tu sais quoi, je suis honnête avec vous, ça fait 13 ans que je suis chrétien, les pires famines que j'ai traversées, c'est quand j'étais dans la maison de mon père. Les pires famines. J'ai perdu mon père il y a 1 an et demi, j'ai vécu des trahisons, les pires souffrances que j'ai vécues, c'est en étant en relation avec Dieu. Par contre, ce que je peux témoigner, et puis je suis tellement heureux d'appartenir à Dieu, c'est que dans chaque tempête, il y a eu sa providence. On a chanté, il régnait encore. Il a été fidèle, il a été là, il a été présent, il m'a jamais abandonné. Puisqu'il y en a un ou une qui peut témoigner que Dieu est fidèle même dans les pires famines. Est-ce qu'il y en a qui peuvent témoigner? Dieu est fidèle même dans les pires famines quand tu es dans la maison de ton père. Mais le fils, il est loin. Il est très loin. Et voici ce que ça dit, verset 15-16. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans des champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Là, culturellement, c'est scandaleux. Plusieurs choses choquantes. Premièrement, il se met au service de quelqu'un. Il n'avait pas besoin avant. Avant, il était au service de son père, mais pas pour gagner un salaire, pas pour... Non, c'est juste que c'est normal, il obéissait à son père, mais par amour. Et là, il se met au service de quelqu'un. Il travaille pour un non-juif, certainement un grec, quand on regarde le contexte de l'époque. Il travaillait pour un grec. C'est honteux. Et en fait, Jésus donne une image que l'homme pécheur, c'est comme un collecteur d'impôts. Parce que le collecteur d'impôts, c'est un juif qui travaille pour des étrangers, qui travaille pour les Romains. Et en fait, il est en train d'écrire ça. Et là, les pharisiens, ils étaient contents certainement en ce moment de l'histoire. On continue. Il s'occupe des cochons. Alors nous, en Alsace, on aime le cochon. Mais à cette époque-là, ils n'aimaient pas du tout le cochon. Le cochon, c'est l'animal le plus impur. Tu peux pas travailler pour les cochons, c'est la pire débauche. Non seulement il travaille pour garder les cochons, mais en plus il veut manger leur nourriture. En fait, il fait juste dégringoler l'escalier de plus en plus bas. Il veut manger ce qu'on appelle les caroubes. Les caroubes, c'était la nourriture qu'on mixait, qu'on donnait aux cochons. Et en fait, c'était indigeste pour l'être humain. Donc lui, il veut manger des choses qu'il peut même pas digérer. Imaginez-vous, tu peux pas être plus bas. Et en plus, personne ne lui en donne. Il est dans le besoin. Il est dans le trou le plus profond du monde et personne ne vient à son aide. Personne ne vient à son aide. Et là, Jésus, il est en train de donner le tableau. Ma vision du péché, ma vision de l'homme pécheur, c'est ça. C'est une personne qui est dans le trou, qui a essayé de s'en sortir tout seul, qui a voulu séparer Dieu, mais qui est dans la misère. Ça, c'est ma vision du pécheur. Et il y a un super théologien spécialiste du contexte juif qui s'appelle Kenneth Bellet, qui a illustré la scène, essayé d'illustrer un petit peu ce qui se passait dans la tête des pharisiens et comment Jésus vient les rassurer par rapport à sa doctrine du péché. Voici ce qu'il va dire. Les pharisiens parlent. Rabbi Jésus, nous ne pensons pas que ta doctrine du péché soit sérieuse. Si elle l'était, vous ne mangeriez pas avec les pécheurs. Donc ça, c'est les pharisiens qui pensaient ça. Jésus, messieurs, je vois que j'ai été mal compris. Je suis désolé que vous pensiez que ma doctrine du péché est erronée. Permettez-moi de m'expliquer. Pour moi, le péché est une affaire très sérieuse. Les fautes des pécheurs ne sont pas à prendre à la légère. Une illustration permettra peut-être de clarifier mon point de vue. Je pense que le péché et le pécheur sont comme un jeune garçon juif qui dit à son père de mourir en lui demandant son héritage. Il vend alors sa part du patrimoine familial, son père étant en bonne santé et résidant en village. En outre, il se rend dans un pays lointain, perd l'argent de l'héritage au profit des païens dans une ville grecque et finit par nourrir des porcs. C'est mon point de vue. Et là, les pharisiens qui possiblement répondraient, incroyable, nous n'en savons rien. Ce jeune rabbin a une magnifique doctrine du péché. Il n'a pas dressé un homme de paille à abattre. Il a présenté notre position théologique sur le sujet mieux que nous n'aurions pu le faire nous-mêmes. C'est exactement ce que nous ressentons à l'égard des pécheurs. Le péché était grave pour Dieu. Et le péché est toujours grave pour Dieu. Sinon, Jésus ne serait pas mort à la croix. Et c'était grave aussi pour les pharisiens. Mais là où, dans l'histoire, il va y avoir comme un clash, comme une différence, c'est sur l'attitude du père vis-à-vis du fils, le sale pécheur que les pharisiens avaient en tête. Luc 15, verset 17 à 20. Le fils, il se mit à réfléchir et se dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance ? Et moi ici, je meurs de faim. Je vais retourner chez mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Et là, il y a un gros débat. Moi, toute ma jeunesse, on m'a dit que ça, c'était l'exemple typique de comment se repentir, comment revenir à Dieu. Et en fait, il y a un débat chez les théologiens qui d'une part, disent « Ok, ça, c'est comment se repentir. » Et d'autres théologiens qui vont dire « Non, il ne se repent pas vraiment. » Il y a plein de détails qui montent, qui ne se repent pas vraiment, en tout cas pas pour les bonnes raisons. Voici les différents détails qui peuvent nous faire penser qu'il ne se repent pas vraiment. Premièrement, le fils a faim. Le fils a faim. Ça dit, combien d'ouvriers ont à manger dans la maison de mon père et moi je meurs de faim. Donc, j'irai vers mon père. Il n'a pas dit, ok, ce que j'ai fait là, c'est scandaleux. Il n'a pas dit ce que j'ai fait là, c'est, j'ai brisé le cœur de mon père, je vais retourner, je vais demander pardon. Ce n'est pas ça qu'il a dit. Ce qu'il veut, c'est nourrir son estomac, parce que les caroubes, ça ne nourrit pas. Il veut nourrir son estomac. Il a faim. Premier indice. Deuxièmement, l'expression est se mis à réfléchir. En fait, en grec, elle est super intense comme expression. Puis il y a même des arabes qui l'ont traduit. Okay, les arabes qui peuvent mieux comprendre le contexte que nous, occidentaux, qui ont traduit par « il est devenu intelligent ». Mettez-vous sur la place, ce gars il est là, au milieu du cochon, il est rempli de boue, il essaye de manger des trucs, mais personne ne lui en donne, et en plus c'est indigeste, et là il se dit, « Eh mais il y a à manger chez mon père ?» Ok, alors voici le plan. Je vais y aller, je vais demander pardon, bon, je vais dire j'ai péché contre tout ça, je suis plus digne d'être appelé mon fils, il faut quand même que je me mille un petit peu. Et après, considère-moi comme l'un de tes ouvriers. Et c'est là le dernier détail qui est vraiment poignant. Kenneth Bellet explique que, dans le contexte de l'époque, l'ouvrier, ok, le mot pour ouvrier ici, c'est mistos. Et en fait, j'avais trois types de personnes dans la maison. Il y avait la famille, donc les fils, les filles, qui eux avaient tous les droits et qui servaient leur père, mais par amour, pas besoin de salaire, ils avaient tout sur place. Il y avait les ouvriers, ou plus précisément les artisans, qui eux travaillaient pour le père et recevaient un bon salaire. Et il y avait les esclaves. Et le mot grec pour esclave, c'est doulos. Et là, c'est pas ce mot-là qu'il emploie. Il dit ouvrier. Et en fait, ce qui se faisait à l'époque quand quelqu'un faisait ça, quand quelqu'un abaissait son père et puis prenait l'héritage, c'est que pour se racheter lui-même, il allait dire à son père, il devait avoir une rencontre, « Papa, permets-moi d'être un artisan, je vais travailler pour toi et je vais rembourser ma dette en ayant un salaire et après tu pourras me réintégrer peut-être comme un fils si tu l'acceptes. » Et si le père acceptait, il l'envoyait dans une ville, enfin, pas dans une ville étrangère, mais toujours en Israël, dans une ville à part. Il allait se former là, devenait un artisan, se formait, avait un salaire, pardon, et remboursait son père. Il ne veut pas s'humilier. Il ne dit pas, papa, considère-moi comme un esclave, je ne mérite rien. Il dit non. Il n'est pas encore assez humilié. Il n'est pas encore assez humilié pour dire, papa, je ne mérite rien. Il dit non, je veux avoir un salaire. Je veux mériter moi-même de retrouver mon statut. Et en fait, son plan, c'est le légalisme. Ce qu'il dit à son père, c'est « Papa, j'ai fait des erreurs, ok, mais t'inquiète, je vais rattraper le coup. Je vais travailler pour toi, tu vas bien me payer parce que je te connais, tu payes bien les ouvriers. Et après, je vais rattraper mon statut de fils. » Et ça, pour moi, c'est se repentir avec des mauvaises motivations. Et c'est comme, si on prend un exemple concret là, c'est par exemple, tu commences à prier en espérant que Dieu règle tes problèmes, mais juste pour ça, pas pour être en relation avec Dieu. Ou par exemple, tu dis, ok, on a parlé de dîmes, tout ça, je vais aller mettre de l'argent dans le tronc là-bas, mais comme ça, tu sais, en espérant que les autres me voient, tu sais, ah, tac, et puis là, un petit billet de 100, comme ça, oh, un gros billet. Des fois, on est comme ça. Ou alors c'est, moi je l'ai fait, ok, je me confesse, je l'ai fait quand j'étais jeune, c'est tu commences à servir, pas spécialement pour servir Dieu, mais pour être avec quelqu'un que tu apprécies. Tu te dis, ah, je vais aller y servir avec les enfants. T'aimes les enfants? Non, mais on va essayer. Parce qu'il y a Mathilde là qui... Et on a tous déjà fait ça un petit peu. Tu t'obéis à Dieu ou tu te repens avec des motivations secondaires. Avec des motivations secondaires. Et c'est un petit peu là ce que le fils, il fait. Il veut rembourser sa dette. Il veut juste mériter et retrouver lui-même sa place en tant que fils. Je vais appeler l'équipe louange à revenir. Et jusque-là, l'histoire, elle n'est pas choquante pour les pharisiens de l'époque. Parce que c'est normal de faire ça. C'est normal de vouloir redevenir artisan, ouvrier, de vouloir rattraper sa place. Par contre, ce qui les intéressait, les pharisiens, c'est l'attitude du Père. Parce que rappelez-vous, Jésus fait cette parabole pour montrer comment Dieu accueille le pécheur. Et là, le fils part vers le Père. Et c'est juste deux phrases, mais ces phrases sont tellement scandaleuses. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Alors qu'il était encore loin. Cette expression « encore loin », en fait, c'est la même expression qui est utilisée quand ça dit que le fils prit son héritage et partit dans un pays lointain. Même expression. Et tu as des théologiens qui vont dire, en fait, alors qu'il était encore loin, c'est pas le fils qui est revenu, c'est le père qui est parti dans un pays lointain. Et Kenneth Bellet, qui est un spécialiste du contexte juif, il explique que généralement les villes comme ça, dans ces, la manière dont la parabole se déroule, la ville était faite où la maison était au milieu de la ville. C'est une maison, c'est un papa qui avait de l'argent, tout ça. Et généralement, la maison était au milieu de la ville. Et en fait, ce que ça dit, c'est que le fils doit revenir donc vers son père, donc il doit traverser la ville. Et donc, il doit faire face au jugement de la ville. C'est comme ça que ça marchait. Et en fait, le père prend les devants. Il n'attend pas que le fils revienne. C'est lui qui sort et qui va chercher son fils hors de la ville. Et en fait, il y avait une cérémonie, on retrouve ça dans la Midrash, dans le Talmud, qui sont des écrits juifs, où il y a toutes les lois culturelles, tout ça. Et il y avait la cérémonie du Ketsatsa. Cérémonie du Ketsatsa, c'était pour tout juif qui gaspillait son héritage dans un pays étranger. Il y avait cette cérémonie, puis c'était juste alarmant ce qui se passait. En fait, les parents, normalement, le père, l'attitude qu'il aurait dû avoir, et c'est les pharisiens qui attendaient ça, les parents apportaient du maïs desséché et des noix, les plaçaient dans une jarre et brisaient la jarre devant le peuple en proclamant « Mon fils est retranché de son héritage ». Ça, c'était la cérémonie qui était censée avoir lieu quand le fils allait revenir. Et la ville devait mettre en place ça. Et le père, il sait très bien ça. Donc le père, ce qu'il fait, c'est qu'il va choper son fils avant qu'il rentre dans la ville. Il va choper son fils. Et là, c'est alarmant. Pourquoi ? Parce que le père court. Le père court. Maintenant, juste relisez le verset. Alors qu'il était encore loin, donc hors de la ville, son père le vit et fut rempli de compassion. Courut, se jeta à son cou, il l'embrassa. Un homme juif à l'époque, ça ne court pas. C'est humiliant. Les hommes juifs ne courent pas. Et là, vous savez pourquoi ils ne courent pas ? Parce qu'ils ont des robes. Et pour courir, il faut soulever sa robe. Et donc, il faut montrer ses jambes. Et dans le contexte de l'époque, montrer ses jambes, c'est extrêmement humiliant. Tu ne peux pas faire ça. C'est pour ça qu'on les dénudait quand on les clouait à la croix. C'était humiliant. Tu ne peux pas faire ça. Et là, le père, il soulève sa robe. Et il commence à courir. Il voit son fils. Et lui, il s'en fout du jugement de la ville. Il s'en fout de ce que les autres pensent de son fils. Il dit, il court. Il est rempli de compassion. Et puis là, il se jette à son cou. Il l'embrasse. Et la manière dont la parabole se déroule, c'est que le père, certainement, avait les esclaves et les serviteurs qui le suivaient. C'est-à-dire que toute la ville a vu la scène. Toute la ville a vu le père courir avec les serviteurs. Et ils ont dû dire, mais c'est le père du fils qui est parti. Mais qu'est-ce qu'il fait? Et puis là, certainement qu'ils ont dû le voir accueillir son fils. C'est n'importe quoi. Le père, il se jette à son cou, il l'embrasse. Et là, il envoie un message fort à la ville autour. C'est peut-être que vous vouliez le juger, mais moi, je vais l'accueillir comme un fils encore. Et on va faire la fête ensemble. Et c'est à ce moment-là, selon plusieurs théologiens, puis je pense vraiment, à ce moment-là, face à cet acte d'amour, que le fils se repent vraiment. Un détail qui change par rapport à tout le plan qui s'était fait. Verset 21. Le fils lui dit, père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Point. Point. Il y a une phrase qui manque. Il ne dit pas, considère-moi comme l'un de tes ouvriers. Il l'enlève. Point. J'ai péché, je suis indigne. Point. Face à l'amour de Dieu, il est face à... Malgré tout ce qu'il a fait, malgré toutes les erreurs, malgré tout le gaspillage qu'il a fait, son père, il l'accueille comme s'il n'avait rien fait, comme s'il était parfait. Je suis plus digne. Point. Il a enlevé tout ce qui était légaliste, il a enlevé tout ce qui était « je ne peux pas mériter ». Et là, il commence à reconnaître. Il s'arrête là. Et le père réplique. Mais le père dit à ses serviteurs « apportez le plus beau vêtement ». Et en fait, le plus beau vêtement, généralement, c'était celui du père. Là, il est en train de dire « apportez mes vêtements, mettez-lui ». Mettez-lui mon manteau. Mettez-lui, imaginez-vous, mettez-lui le plus beau vêtement. Encore s'il avait dit, ok, prenez un des vêtements là qu'on n'a pas encore lavé. Mais non, prenez le plus beau vêtement. Comme s'il était pur, comme s'il était saint, comme si, parce que c'est son pardon qui purifie. Et mettez-lui, passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Il y a des théologiens qui disent qu'un veau engraissé, c'était pour nourrir 200 personnes. Un gros veau engraissé. Et là, en fait, avant même que le fils revienne, il avait déjà organisé la fête. Parce que les veaux, tu les tuais, tu les engraissais jusqu'au moment où tu commences la fête. Et là, c'est comme si c'était déjà préparé. Mon fils va revenir. Ah ben, on va se préparer pour son retour. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à faire la fête. Là, c'est une mauvaise traduction. Parce que c'est pas mon fils qui était perdu et revenu à la vie. C'est, en fait, littéralement, c'est mon fils qui était mort, je l'ai ramené à la vie. Mon fils qui était perdu, je l'ai retrouvé. En fait, c'est pas toi qui reviens à Dieu. Tu peux pas revenir à Dieu, en fait. C'est Dieu qui va te chercher. C'est Dieu qui te ramène à lui. C'est comme, en fait, la meilleure définition de la repentance et de fait de revenir à Dieu, c'est psaume 23. Il me conduit. Il m'amène dans des verts pâturages. Et en fait, le déjà m'a dit, là, le fils voulait revenir tout seul, mais non, c'est le père qui le ramène. En fait, alors qu'il était encore loin, il va le chercher dans les ténèbres, dans ton fossé, dans ton trou, et c'est lui qui te ramène, et il te rhabille, il te purifie, il te pardonne, et après il t'emmène. Allez, viens, on va faire la fête. Parce que mon fils qui était mort, il était mort dans un pays lointain, j'ai été le chercher. J'ai été le chercher. Parce que des fois, il y a des péchés, tu ne peux pas t'en sortir tout seul, là. Tu ne peux pas revenir quand tu es dans la boue du péché. C'est Dieu qui vient te chercher. C'est Dieu qui vient te chercher. Et là, Jésus finit avec ça. Puis après, il parle du grand frère, mais on va s'arrêter là. Et là, Jésus, il est en train de dire aux pharisiens, voici l'image de Dieu qui accueille des pécheurs. C'est un père qui s'humilie. C'est un père qui n'a pas peur de courir. C'est un père qui est rempli de compassion. C'est un père qui accepte que ses fils s'éloignent de lui. Mais c'est un père qui a le cœur brisé et qui, à chaque jour, attend... Parce que juste, tu décides dans ton cœur de, ok, demi-tour, et en fait, Jésus est là. Tu sais, t'es là, tu dis, ok, je vais aller là-bas, et là, tu pêches, tu t'enfonces, ton cœur s'encrasse, et là, tu dis, ah, tout ce chemin que j'ai fait, je vais devoir le refaire, tu te retournes et Jésus est là. Le psaume 139, David va dire, même dans les ténèbres, tu es là. Même dans les ténèbres, tu es là, et les ténèbres deviennent lumière pour toi. Et là, il est en train de dire, même si je vais m'éloigner de toi, tu es toujours présent. Tu m'énerves, Dieu, tu es toujours là. Et en fait, peu importe à quel point tu es parti loin, peu importe à quel point tu vas partir loin même demain. En fait, Jésus, il te suit derrière. Il est comme ça. Il attend juste que dans ton cœur, tu fasses le choix de, ok, ouais. Wow. Jésus est là. Jésus est là. Puis, je vous invite à vous lever. Je pense qu'il y a deux appels forts. Premièrement, un appel en tant qu'église, premièrement. Et un appel en tant que personne. Je pense que premièrement, premier appel, c'est que, admettons que la ville autour, c'est l'église. Je pense que Jésus vient nous challenger, vient nous parler sur comment on accueille ceux qui s'éloignent. Comment on accueille ceux qui veulent revenir. Des cérémonies, comme j'ai parlé là, la cérémonie du Ketsasa. Combien j'en ai fait, combien j'ai jugé des gens, combien... C'est pas ce que Jésus nous appelle à faire. Jésus, ce qu'il nous appelle à faire, c'est « Hé, va tuer un veau gras, on va se réjouir. » Parce que ton frère, ta sœur... qui était mort, est revenu à la vie. C'est exactement ce qu'il va dire au grand frère. Le grand frère va juste pas comprendre. Mais non, il mérite pas. Et là, il va dire, hey, mais ton frère, qui était mort, est revenu à la vie. Je pense, premièrement, on va juste, en tant qu'église, je pense qu'il y a un appel à répondre. Il y a une réponse à Dieu qui doit être faite là, de Seigneur. On veut pas être de ceux qui font cette cérémonie pour juger, pour retrancher. Mais on veut être de ceux qui accueillent et qui se réjouissent pour chaque personne qui va se repentir, pour chaque personne qui va revenir, pour chaque personne que tu vas aller chercher. Et s'il y en a qui veulent juste répondre à cet appel, premièrement, ferme les yeux ensemble. Seigneur, on veut te demander pardon en tant qu'église pour toutes les personnes qu'on a jugées, pour toutes les personnes qu'on a mal accueillies, pour toutes les personnes qui sont éloignées et que nous, on s'est considérées meilleures qu'elles, alors que on est tous pécheurs, on est tous... Le Fils prodigue, c'est chacun d'entre nous. C'est chacun d'entre nous. Et tu nous as tous fait grâce, tu nous as tous accueillis. Tu nous as tous venus... T'es venu nous chercher là où on était, dans notre misère, dans notre... Et peu importe quel degré, à quelle échelle on était dans la misère, on était dans la misère, on était séparés de toi, et on pouvait même pas revenir par nous-mêmes. C'est toi qui es venu nous chercher. Et je te prie, Seigneur, de nous aider à avoir ce cœur-là, à courir avec toi pour aller chercher ceux qui sont loin, à courir avec toi même s'il faut soulever sa robe, même s'il faut s'humilier, même s'il y a des gens qui vont pas comprendre, qui vont dire mais ta doctrine du péché elle est light. Non, c'est juste que notre doctrine de la grâce elle est solide et on pense que la grâce de Dieu est capable d'aller chercher chaque personne, peu importe l'erreur, peu importe ce qu'elle a fait, peu importe si on trouve ça scandaleux. La grâce de Dieu est grande et plus grande que notre péché, plus grande que ton péché et plus grande que le péché du voisin, même si cette personne, c'est elle qui t'a fait souffrir. La grâce de Dieu est tellement grande. Tu ne pourras jamais empêcher Jésus de courir après ces personnes, alors cours avec lui. Premier appel. Viens nous aider à courir avec toi, Seigneur. Deuxième appel. Cette course que le Père fait, ça pourrait être un parallèle avec la course que Jésus fait de son chemin de croix. Jésus, parce qu'en fait, le Père sort de la ville, va à la frontière de la ville pour accueillir son fils. Et Jésus, quand il porte sa croix, Golgotha, c'est à la frontière de la ville aussi. Il sort de la ville, il porte sa croix. Et il traverse un chemin au milieu de la ville où les gens l'insultent, où les gens le maudissent. Parce qu'il y avait un verset dans Deutéronome qui disait « Maudit soit celui qui est pendu au bois ». Ils étaient en train de le maudire parce que si on va le clouer, c'est qu'il a fait quelque chose de mal. Sauf que là, en fait, il est en train de porter sa croix pour aller le chercher. Il avait les jambes à l'air, il était dénudé pour aller le chercher, pour aller me chercher. Il y a un théologien qui va dire que la repentance, finalement, c'est pas nous qui revenons à Dieu. La repentance, c'est se laisser trouver par Dieu. Alors, je vais inviter, on garde les yeux fermés. Je t'invite à lever la main si tu veux te laisser trouver par Dieu. Je t'invite à lever la main si peut-être c'est la première fois où tu dis, ok, mais je vais essayer Dieu. Apparemment, il m'aime. Apparemment, il peut m'enlever cette honte que je ressens. Il peut me guérir. Je t'invite à lever la main et juste, j'ai envie d'essayer de me laisser trouver par Dieu. Je veux me laisser trouver par Dieu. Ou peut-être que ça fait 5, 10, 15 ans, 20 ans que tu es chrétien et puis là, tu es dans la boue du péché. Mais tu sais quoi? Laisse-toi trouver par Dieu aussi. Parce qu'on est tous le feu prodigue de manière continue. Si tu as besoin de revenir à Dieu, reviens. Tu as juste à te laisser trouver par Dieu. C'est tout. Lui, il est déjà là. Tu n'as aucun effort à faire. Si ce n'est reconnaître que j'ai besoin que Dieu me trouve. Alors lève ta main. Sinon, je te prie pour toutes les personnes qui ont levé la main et je te remercie parce que là, tu es en train de te réjouir. Tu es en train de dire à tous tes serviteurs, venez, on va tuer un animal et puis on va juste faire la fête, on va se réjouir parce que mon fils, ma fille qui était morte est en train de revenir à la vie parce que je l'ai ramené à moi. Donc Seigneur, je te prie d'amener ta paix dans les cœurs de tous ceux qui ont levé la main. Je te prie, Jésus, d'amener la joie, d'amener ta paix, d'amener ton amour, qu'ils puissent ressentir que tu les aimes, qu'ils puissent ressentir que tu es présent, qu'ils puissent ressentir que ton pardon est à l'œuvre encore aujourd'hui, que ta grâce est à l'œuvre encore aujourd'hui. Merci pour ton amour. Et puis on va prendre ce dernier chant pour célébrer tous ensemble. L'histoire finit avec une fête et on va se réjouir ensemble, on va faire la fête. Pour toutes les personnes qui sont passées de la mort à la vie et toutes les personnes qui sont en train de revenir à Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? On va se réjouir ensemble, ça passe à l'équipe. Et merci Seigneur pour son amour.
Premier mot, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon vers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour en versant extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche et me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne, et si t'en mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour embarrassant, extravagant, infini de Dieu. Je te rejetais, mais sans relâche, tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je te sens tes mains, et tu m'as offert la croix. Oui, tu es. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, 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 l'amour en versant l'extravagant infini de Dieu. Sans péril, il me cherche et me poursuit, me ramène à lui. Et je suis indigne et sans mérite. Et pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour en versant extravagant infini de Dieu. Hey, hey. Oh,
aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé, pour que tu me cherches.
Amen.
Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé, pour que tu me cherches. Un mur ne peut résister, ni mensonge.
On abat les forteresses ce matin. Aucun mur, aucun mensonge.
Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé, pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge te lie, sans que tu me cherches.
Thank you.
Alors que Dieu est en train d'accompagner certains là maintenant qui ont fait cette démarche de se retourner, et Dieu était là, Jésus était là. On sait que dans le chemin, il peut y avoir parfois encore des luttes et des combats comme il a été dit. Et j'aimerais le proposer comme ça à l'église, de chanter de manière prophétique par rapport à toutes celles et ceux qui, dans les semaines, les mois qui vont arriver, vont se positionner pour aller au baptême, pour se faire baptiser pour Jésus-Christ, pour s'engager, pour que leur vie ait un sens dans le service. Et parfois, il y a ce chemin-là qui est là. Et j'aimerais inviter tout de suite l'église à pas juste dire « Ah super, des gens ont levé la main, sont revenus à la maison du Père », mais qu'on se positionne, qu'on intercède, qu'on prophétise sur ces personnes, cette démarche-là de dire « Aucune ombre n'est trop sombre », parce que dans la marche avec Christ, il y a ces moments-là. Mais que d'emblée, nous, l'église, on fasse cette action, cette première action, dire « Oh super, Jésus a accueilli des enfants », mais nous, l'église, on est là et on prie, on intercède et on déclare cela maintenant. De manière à ce que vous qui avez été interpellés par ce message, qui avez fait cette démarche, vous puissiez être là au point accueil, vous faire connaître, de dire « mais je veux aller plus loin, je veux me faire connaître, je veux être accompagné aussi, je veux faire ce chemin de disciple ». On sera heureux d'être avec vous sur ce chemin, donc n'hésitez pas à venir au point accueil dans un instant et d'échanger, de laisser toutes vos coordonnées, qu'on puisse vraiment être en contact avec vous. Tu es peut-être venu dans ce lieu, tu n'as même pas de Bible, tu as découvert un message qui parlait de la Bible et tu l'as pas, on sera heureux de vous l'offrir et d'être avec vous sur ce chemin-là. Mais nous, l'Église, maintenant, on veut se positionner aussi spirituellement et commencer à le proclamer, à le prophétiser. Aucune ombre.
Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé, pour que tu me cherches.
Souviens-toi de ça à chaque jour.
Aucun mur ne peut résister, ni mensonge de tenir, sans que tu me cherches.
Et même quand tu retombes, proclame, aucune ombre.
Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé, pour que tu...
T'auras le sentiment de pas assez prier et lire la Bible, proclame ça.
Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans que tu...
Tu vas avoir des choix à faire, mais aucune ombre.
Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé, pour que tu...
Tu vas devoir te positionner, mais aucun mur ne peut résister.
Aucun...
Tu vas voir des tentations, mais aucune ombre.
Aucune ombre n'est trop sombre.
Oh Église, prophétise, proclame, prie ça à Dieu. Aucun mur, aucun mur.
Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans que tu me cherches. Oh l'amour en descend, est un pardon infini de Dieu.
Alléluia. On peut applaudir le Seigneur dans ce lieu. Encourager ceux qui ont fait une démarche avec le Christ ce matin. Peut-être que Jésus mérite, le Père mérite peut-être quelque chose de l'ordre de l'ovation. Il est le Sauveur du monde. Le Sauveur du monde. Les ténèbres ne peuvent résister. Alors, de la part de l'Église, pour vous qui avez levé cette main-là, on va vous dire bienvenue à la maison à trois, d'accord? Tout le monde ensemble. 1, 2, 3. Allez, on peut applaudir Jésus. Vous avez peut-être des échéances cette semaine, vous avez un sujet de prière, des examens. Il y a une équipe qui s'appelle l'écoute et prière, elle se tiendra à la disposition tout de suite à la fin de cette célébration. On va encore prendre un chant avec Julien Adam et un peuple qui va encore adorer et louer là. Ouais. Non, en fait, on arrête Julien, c'est fini. Si, c'est bon? Ok. Donc juste dans ce coin à ma gauche, à votre droite, un espace d'écoute et de prière. Vous avez un sujet de prière. Vous avez aussi dans votre vie justement des besoins d'être entouré, d'être entendu, écouté dans la prière. Une équipe se tient à votre disposition. Ils sont remarquables avec un badge, d'accord. Donc c'est des personnes qui prient pour vous, des personnes qui ont été formées, des personnes qui sont de la maison ici. Et puis donc n'hésitez pas. Rendez-vous tout de suite à la fin de cette célébration sur la gauche ici. Ils seront heureux de pouvoir prendre ce temps avec vous. Et on va enfin, une dernière fois avant que ça finisse, on veut remercier Julien, si vous pouvez encore juste le remercier. Je pense qu'il faut honorer, faut être bienveillant, faut être bon envers les gens qui viennent, qui prennent ce temps pour venir. Donc voilà, on loue encore avec vous et puis on vous souhaite une bonne semaine dans l'amour extravagant de Dieu.
Est-ce que vous vous souvenez du chant qu'on a pris ce matin? On va le reprendre ensemble. Dieu éternel, tu ne faillis pas. Ensemble.
Quand je ne sens que le poids des chaînes, quand mes yeux ne percent plus la nuit, un chant s'élèvera de mes peines et portera ma vie.
Et proclamons notre assurance.
Jusqu'à la fin, tu seras fidèle. Et c'est mon assurance, c'est mon cri. Mon chant s'élèvera vers le ciel et portera ma vie. Et ce chant portera ma vie.
Et allez, toute l'église ensemble.
Ô Dieu éternel, tu ne faillis pas. Tu te révèles quand mon chant s'élève vers toi. Et je continuerai de te glorifier. Dans ta présence, les forces reviennent à ma foi. Tu ne faillis pas. Et je te louerai tout au long du jour. Je te louerai au cœur de la nuit. Mon chant s'élèvera pour toujours, car il fait fuir les nuits. Ce chant portera ma vie. Dieu éternel, tu ne faillis pas. Tu te révèles quand mon chant s'élève vers toi. Et je continuerai de te glorifier. Dans ta présence, les forces reviennent à ma foi.
Je n'attendrai pas.
N'attendrai pas la fin du combat pour acclamer ton nom. Je n'attendrai pas que tombent les murs pour élever ton nom. Du bord du rivage, comme au creux des vagues, je bénirai ton nom. Là, tu es fidèle, tu...
Je n'attendrai pas, regarde-le.
Je n'attendrai pas la fin du combat pour acclamer ton nom. Je n'attendrai pas que tombent les murs pour élever ton nom. Du bord du rivage, même au creux des vagues, je délirai ton nom. Tu es fidèle, Dieu éternel, tu ne faillis pas. Tu te révèles quand mon chant s'élève vers toi. Je continuerai te glorifier. Et dans ta présence, les forces reviennent à ma voix.
Ta présence, oh.
Les forces reviennent à ma voix.
Amen. Soyez bénis, passez une bonne semaine et merci encore pour votre accueil. Continuez de louer Dieu, continuez de vous approcher de lui. Soyez bénis. Bonne semaine.